Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'œuvre de l'artiste américaine d'origine cubaine, Ana Mendieta. Nous sommes au sein de l'exposition qui lui est dédiée, au Moco Panacea à Montpellier, en septembre 2023. Cette exposition a été conçue par deux commissaires, Vincent Honoré et Ramona Boutayeb. Après quelques mots sur l'œuvre de l'artiste Ana Mendieta, nous allons rencontrer Ramona Boutayeb au sein de l'exposition. Puis, dans un deuxième temps, nous allons retrouver l'artiste Barbara Luchenska qui partagera son regard sur le travail d'Ana Mendieta en nous promenant dans l'exposition. Ana Mendieta est une artiste inclassable, pionnière en plusieurs domaines, autant de l'écoféminisme, de l'action-performance, du video-art ou encore du land-art. Elle est née en 1948 à La Havane, à Cuba, et est morte en 1985 à New York, aux États-Unis. Très tôt, Ana Mendieta entame une pratique artistique. Elle fait d'abord de la peinture, une catégorie qu'elle dépasse et élargit. Dès 1972, son travail prend une dimension quasi alchimique de la transmutation de la matière qu'elle déploie dehors de manière nomade en plein air. Pour travailler, elle emploie des substances élémentaires comme du feu, de la boue, de la glace, de l'eau ou encore du bois ou du son, avec lesquels elle crée un système complexe de correspondances symboliques et magiques. Mendieta convoque dans un panorama des rites et des rituels qui s'entend du paléolithique à la santeria moderne, la religion afro-cubaine. C'est une iconographie qui se nourrit chez elle par des études d'anthropologie, d'archéologie et d'ethnographie, et dans ce contexte, Ana Mendieta se passionne particulièrement pour la figure universelle de la déesse Terre. Elle a moule, dessine, taille, sculpte, grave, par terre, dans l'herbe, dans la boue, sur de la roche, dans du bois, dans l'eau, dans du sable. Ainsi, en 1972, elle crée par exemple l'œuvre Untitled Grass Woman, la première de ses expérimentations dans laquelle son corps se fond avec le paysage. C'est une pièce qui sert à la première d'une série qu'elle nommera plus tard Earth Body Works. Des œuvres qui annoncent une pratique multidisciplinaire hybridant les catégories. Ces pièces se font à la fois tableaux performatifs, sculptures, œuvres de land art et photographies. L'exposition personnelle d'Ana Mendieta au Moco Panacea porte un double titre. Au commencement, au pluriel en français, et Search for Origin en anglais. Ce double titre tire son inspiration d'une citation de laquelle Ana Mendieta dit « Il n'y a pas de passé originel à racheter. Il y a le vide, l'orphelinat, la terre non baptisée du commencement, le temps de l'intérieur de la terre qui nous regarde. Il y a surtout la recherche de l'origine. » À cette première citation, faisons suivre tout de suite une autre, de laquelle Ana Mendieta nous parle de son travail de plasticienne. « Je construis un dialogue entre le corps féminin à partir de ma propre silhouette. Je pense que c'est le résultat direct du fait que j'étais arrachée par ma patrie, qui est Cuba, pendant mon adolescence. Je suis submergée par le sentiment d'avoir été jetée de l'utérus, c'est-à-dire la nature. Mon art est ma façon de rétablir les liens qui m'unissent à l'univers. C'est un retour aux sources maternelles. Ces actes obsessionnels de réaffirmation de mes liens avec la Terre sont en réalité une manifestation de ma soif d'être. Par essence, mes œuvres sont la réactivation des croyances primitives. Les photographies deviennent l'image, après coup, de souvenirs primordiaux à l'œuvre de la psyché humaine. » Comme elle l'explique, Mendieta se place elle-même au centre de sa pratique, en utilisant son corps comme matériau. Et les sujets qui peuplent son œuvre sont directement liés à sa expérience de vie. L'exil et le déracinement, Ana Mendieta les vit dès l'âge de 12 ans. En 1968, après la révolution cubaine et la prise du pouvoir de Fidel Castro, Ana Mendieta et sa sœur sont envoyées seules aux États-Unis par le biais de l'opération Peter Pan, qui consistait à amener aux États-Unis des enfants cubains dont les parents étaient opposés au gouvernement castriste. Elles sont envoyées vivre dans l'Iowa et c'est qu'en 1966 que la mère et le jeune frère de Mondietta les rejoignent après 5 ans de séparation. Leur père reste à Cuba après avoir été arrêté pour des activités contre-révolutionnaires. Très tôt, elle commence à peindre. Puis, en 1970, Anya Mondietta entame des études supérieures en art. L'exposition ici au Moco Panacé, à Montpellier, rassemble des œuvres datant de 1968 à 1985 et une dizaine de pièces sont ici présentées au public en Europe pour la première fois, comme par exemple l'œuvre immersive Untitled Silhouette Series de 1978 et qui a été reconstituée ici à Montpellier d'après des photographies existantes. Comme la commissaire d'exposition Ramona Boutayeb nous expliquera d'ici quelques instants, des photographies prises pour documenter l'œuvre lorsqu'elle a été montrée aux États-Unis, à Long Island, à la State University, ont été ici prises comme partition pour réinterpréter l'œuvre au sein de l'exposition Moco Panacé. Bonjour Ramona, merci de nous accueillir aujourd'hui à l'exposition au commencement d'Anna Mondietta. Tu as curaté l'exposition ensemble avec Vincent Honoré. Et j'aimerais t'interviewer aujourd'hui autour d'une œuvre spécifique qu'on a choisie ensemble, qui se nomme Untitled Silhouette Series.
Bonjour, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de ce travail, qui est une œuvre en fait qui est assez importante dans l'exposition, puisque c'est sa seconde occurrence. Elle avait été réalisée in situ en 1978 par Anna Mondietta suite à l'invitation de Louis Kasmiser, artiste et enseignant à l'université de Wesbury dans l'État de New York, pour une exposition temporaire qui se déroulait sur 2 semaines, en avril et mai 1978, dans la galerie de l'université qui s'appelle la Milly Awalas Gallery. À l'époque, en fait, Anna Mondietta, elle développe une pratique assez importante qui touche à différents médias. C'est une artiste assez inclassable puisque on la classe à la fois dans la performance, dans le land art, dans l'art vidéo, dans la performance. Mmh. Et en fait, elle n'est rien de tout ça et tout à la fois. Mmh. D'ailleurs, on parle plus aujourd'hui de performance-action. Faut savoir que c'est quelqu'un qui a développé tout un travail qui a été beaucoup en fait fait en extérieur et que c'est la seconde fois en fait avec cet environnement qu'elle intervient à l'intérieur en fait d'une galerie. Donc l'idée aussi de faire rentrer et d'amener la nature au public et souvent en fait quand elle travaillait en extérieur c'était plutôt des actions qui étaient isolées puisqu'il n'y avait pas de public et qui étaient documentées à travers photographies, films Super 8, 16 mm par la suite et qui devenaient finalement des traces en fait du travail.
Je me pose la question, est-ce qu'on peut parler concernant Anna Mondietta comme une pionnière du land art?
Alors, elle ne se considère pas comme pionnière du land art, justement parce que beaucoup d'artistes land art à l'époque interviennent dans la nature en venant la modifier, mais en emmenant aussi des éléments extérieurs et parfois même des mécanismes et des machines. Alors qu'elle, quand elle intervenait dans la nature, elle travaillait directement avec l'environnement immédiat. Et en le modifiant uniquement par des actions en fait physiques, puisque son corps en fait était aussi l'objet et l'outil en fait de ce travail de sculpter l'espace et la nature, et elle travaillait uniquement avec les éléments sur place sans les en amener, parfois avec des modifications et des interventions très subtiles voire invisibles, puisque dans la nature certaines formes, notamment par exemple les siluetas, puisque là en l'occurrence on est aussi sur une œuvre des siluetas series, étaient parfois trouvés et apparaissaient en fait comme des dessins déjà faits par la nature, par certains végétaux, fleurs ou par de la mousse sur une roche. Donc elle jouait aussi de ce qu'elle trouvait directement dans l'environnement, quoi.
Donc on pourrait plutôt dire qu'elle s'est distinguée du Land Art, ou elle se distingue du Land Art du fait que ses œuvres s'intègrent davantage, ou sont peut-être il y a un autre rapport à la nature qui est peut-être plus respectueux, ou qui prend en compte l'aspect éphémère ou changeant.
Alors c'est aussi peut-être on pourrait plus dire que c'est une pionnière de l'écoféminisme, mais celui-ci qu'elle a un rapport à la nature qui est constitué en fait de ce qu'il a traversé. C'est quelqu'un en fait qui avait un rapport aussi à la terre et dans cette question aussi d'unité et d'universalité. C'est quelqu'un qui a connu l'exil en fait et ce détachement de sa terre natale qui était Cuba. Elle arrive à l'âge de 12 ans aux États-Unis dans le cadre du programme Peter Pan dans le contexte politique de l'époque. Et elle a toujours eu en fait cette addition en fait d'influence et de recherche. Elle s'est beaucoup intéressée en fait à l'art néolithique, à l'histoire de l'art aussi en général, donc l'art mésoaméricain, et aussi toutes les religions et les influences qui sont plus d'ordre aussi animiste ou liées à des spiritualités différentes. Notamment, il y a une religion afro-cubaine à laquelle elle n'a pas été initiée, mais sensibilisée quand elle était enfant et à laquelle elle s'est intéressée aussi par la suite. Et qui est en fait une sorte de mélange de vaudou, donc les questions des énergies, des forces, des représentations, notamment la figure de la déesse mère qui revient de façon récurrente sur une période de son travail, et aussi toutes les représentations et les symboliques. Et pour elle, en fait, les énergies, en fait, c'est un fluide, et ça circule, et la Terre est vecteur, en fait, de ce fluide. Donc renouer, se relier à la Terre, c'est aussi, en fait, ne faire qu'un et renouer aussi avec les origines.
Donc, oui, ce rapport à la nature, c'est relié à son engagement écoféministe aussi. C'est-à-dire qu'il y a c'est des portes symboliques, par exemple, d'utiliser comme ça des objets trouvés qu'on remet ici dans l'espace. Est-ce que concrètement autour de cette œuvre, on peut comment on relierait ça à son engagement écoféministe, ou est-ce que c'est quelque chose de séparé de son œuvre?
Séparé, oui non, parce que pour recontextualiser un petit peu comment cette œuvre a été réalisée en 78, donc elle est invitée par Louis Katmitzer et elle décide de travailler avec un groupe d'étudiants, donc de créer une sorte de workshop et de travailler vraiment avec l'environnement immédiat de l'université. Dans le contexte de l'université à Old Westbury, l'université à l'époque est entourée en fait de toute une végétation et toute une faune et une flore, et notamment une forêt en fait de chênes. Et donc ils font tout d'abord un travail de collecte, donc dans l'environnement vraiment immédiat, aux abords de l'université. Et ensuite, l'installation de l'environnement est réalisée pour l'exposition. Elle se constitue notamment en fait de troncs de bois morts et de feuilles au sol, de gravats et de différents éléments, branchages récupérés alentour. Et du coup, ce qui est présenté aujourd'hui au MoCo, ce n'est pas l'œuvre à proprement parler. C'est plutôt une réinterprétation. Donc on a rejoué cette œuvre comme un peu une partition, parce que c'est posé la question, en fait, donc c'est la première fois qu'Anna Mendieta crée un tel environnement en intérieur, et c'est posé la question de est-ce qu'elle en était satisfaite. Alors il y a plusieurs sons de cloche, mais beaucoup disaient qu'elle n'en était pas satisfaite, mais en même temps c'est un travail qu'elle avait énormément documenté. Dans les archives on trouve plus d'une soixantaine de photographies.
Ce qui est peut-être lié aussi au fait qu'elle s'est faite avec les étudiants, et comme ça il y avait tout un groupe qui travaillait ensemble, d'autres l'ont documenté. C'est pour moi son sphère, enfin, c'est elle qui a pris ces photos.
Alors les photos c'est elle qui les a prises à l'époque. Après c'est aussi comme c'est un contexte universitaire, c'est intéressant de travailler aussi avec le public de l'université. Donc ils l'ont aidé pour la production, comme ça se fait
aujourd'hui encore,
puisque c'est comme ça aussi qu'on a souhaité procéder. Et c'est vrai que quand nous avons discuté en fait avec l'estate de pourquoi cette œuvre n'avait jamais été rejouée, la question s'est posée de quel serait l'intérêt de la rejouer, puisque notre in situ à Montpellier n'est pas l'in situ de Long Island, et qu'est-ce qui était important en fait par rapport au résultat final ou le process. Et on a analysé un petit peu toutes les archives. On a aussi pu avoir le témoignage de Luz Casmizer, qu'on a contacté, donc de mémoire et de souvenirs de ce projet à l'époque. L'Estate et la Galerie Le Long ont aussi regardé ce qu'ils avaient dans les archives. Et on s'est rendu compte en fait que ce qui était important aussi, c'était plus finalement le processus de travail. C'est-à-dire travailler dans l'environnement et le contexte géographique de l'endroit où l'œuvre serait rejouée et de le rejouer un petit peu comme une partition, c'est-à-dire d'analyser les éléments constitutifs de l'œuvre et en avoir un équivalent. Donc nous, à Montpellier, on n'a pas des forêts avec des chênes et des feuilles de chêne immenses. Donc on a travaillé avec nos collègues de l'équipe technique. On a étudié un petit peu les différents éléments de cet environnement et ils ont contacté en fait le littoral pour pouvoir avoir plus de renseignements sur ce que voulait dire prélever aussi dans la nature des éléments. Faut savoir que le sud de la France, c'est plutôt des pinèdes. Donc on a proposé en fait de rejouer la pièce plutôt dans un sous-bois qui serait constitué en fait à partir de branchages et de troncs et d'aiguilles de pin, puisque c'est notre environnement immédiat. Et avec les préconisations des différents interlocuteurs que nous avons eus, il a été prélevé en fait dans des zones ciblées, puisque le bois mort, c'est aussi un écosystème. Et du coup, ça peut venir perturber aussi certaines zones et périmètres en fait, où se trouve ce bois dit mort, mais pas si mort que ça, puisque ça devient un espace aussi de vie.
Mais là, par exemple, ce qu'on voit, donc, c'est effectivement des bois morts. Il y a par terre, il y a des pins. Et puis, il y a aussi cette silhouette. Alors, on ne sait pas trop de quelle matière elle est faite.
Alors, après analyse, d'après les archives photographiques, on s'est rendu compte que c'était constitué de différents éléments amalgamés, notamment en fait des galets, des petites pierres en fait sur lesquelles on peut trouver en fait des pousses de mousse et de la terre en fait, et que du coup la silhouette a été sculptée à la main. Modelé avec en sourçant localement de la terre, des pierres, de la mousse. Et pour pouvoir la reproduire, parce qu'il y a aussi l'idée d'essayer de se rapprocher de comment était l'environnement à l'époque. Donc c'était une pièce qui était un peu plus grande, parce que là on est à peu près sur une soixantaine de mètres carrés, alors que la Amelia Wallace Gallery, elle était plutôt dans les 80-100 mètres carrés. Mais le public en fait pouvait découvrir l'environnement qui n'était pas immersif, c'est-à-dire qu'il l'appréhendait plutôt de façon frontale, puisque donc il y a un cartel qui montre des photos de l'œuvre dans son contexte à l'époque, et du coup on l'envoyait depuis une rampe en fait.
Plutôt un plongeon un peu,
les regards. Légèrement en contre-plongée, avec une arrivée de lumière naturelle, d'où aussi le choix de l'implanter dans cet espace-là, la deuxième salle du Moco Panacé, puisqu'on a une grande baie vitrée avec une arrivée de lumière naturelle, et avec une orientation aussi de la silhouette qui reste similaire, donc qui va vers la lumière naturelle, comme ça avait pu être fait à l'époque.
Il y a beaucoup de questions qui viennent à l'esprit quand on passe du temps devant cette œuvre. Donc il y a évidemment la question de la nature qui s'intègre comme ça maintenant à l'intérieur. Il y a aussi l'aspect collégial qu'elle a travaillé avec des étudiants qui m'intéresse, que j'aimerais bien aborder un instant. On voit par terre une silhouette. Qu'est-ce qu'elle en dit, elle ?
Ce que ça véhicule pour l'assise, le corps, il faut savoir qu'Anna Maglietta, sur ses premières pièces, donc on montre aussi, je fais une petite parenthèse, puisque l'exposition ouvre aussi sur des peintures, puisqu'elle commence sa pratique par la peinture. Et c'est en 72, en fait, lorsqu'elle intègre en fait, le programme intermédiaire, qui est un programme universitaire à l'Université de l'Iowa, qui est initié par Hans Breder, qui est aussi artiste. Et dans ce programme, en fait, c'est un espace aussi très expérimental, assez innovant aux États-Unis à l'époque, et qui s'ouvre sur d'autres champs en fait, de la création, notamment autour de la performance, de la vidéo, et le mot d'ordre, c'est aussi l'expérimentation. Et elle, à travers son corps, en fait, elle va initier en fait tout un travail, donc à la fois le travail sériel, mais aussi la question de la transformation du corps animal, du corps végétal. Elle a réalisé entre 72, on va dire, et 79, plus de 200 silhouettes. Là, on est dans une des dernières silhouettes, et la silhouette, en fait, elle a connu différentes transformations. Puisqu'au départ, en fait, celle qu'on identifie comme la première silhouette, qui est de 73, c'est Anna Mangetta qui se met en scène dans une tombe au Mexique, puisqu'ils vont régulièrement sur des sites archéologiques l'été, en voyage d'études, en fait, donc elle se rend régulièrement à Mexico. Et donc on est plutôt dans la question du corps végétal. Et le corps d'Anna Mangetta va disparaître au fil du temps pour donner place à d'autres types de silhouettes. Notamment, on a une figure qui revient de façon récurrente, qui est la figure de la déesse mère, donc qui est une silhouette féminine au bras levé. Et finalement, Anna Mangetta trouve que cette figure, elle est trop connotée, en fait, comme une figure féminine, féministe aussi. Et ses revendications par rapport au féminisme, elle n'y a jamais réellement adhéré à l'époque, même si elle s'engage dès 1978 dans la galerie, qui est une galerie qui est créée par des femmes, des artistes femmes, et qui se crée à New York en fait dans les années 70-72.
Air
Gallery. Oui, la Air Gallery. Et tout simplement parce qu'elle considère que dans le contexte de l'époque, les questions féministes, elles sont plutôt traité par le prisme en fait d'une classe moyenne, voire une classe bourgeoise américaine blanche, et sachant que elle est américano-cubaine, on va dire, elle ne se considère pas en fait comme prise en considération comme de nombreuses femmes, et du coup elle a toujours été dans un entre-deux en fait par rapport à ces questions-là, même si l'engagement, c'est-à-dire dénoncer les violences faites aux femmes qu'elle a, sur les pièces qu'elle a pu développer dans les années 70, notamment une des plus connues, Rape Scene, où elle rejoue un tableau et une scène suite à un viol et un meurtre qui a été commis sur le site de l'université. Voilà, donc c'est quelque chose qui a toujours traversé son travail, mais en même temps, elle s'en revendiquait qu'en partie.
Et c'est surtout une œuvre très intime, c'est vrai que ce n'est pas des revendications générales, c'est plutôt au travers de son corps qu'elle... Elle travaille aussi cette question de l'invisibilisation, de comment on est visible ou invisible. Et donc il y a cette, il y a cette silhouette effectivement, qu'on voit là, ici, par terre, qui est donc faite des cailloux, tu nous as dit, et de terre. Et elle est donc entourée de pinades qui viennent à côté d'ici, à côté de Montpellier. Et ils étaient accueillis par les étudiants de Montpellier, j'ai appris.
Alors, eux, ils ont travaillé sur une partie de la collecte qui plus en lien avec la silhouette.
Ah, d'accord.
Puisqu'on a essayé de sourcer autour du Moko Panacé, et d'ailleurs même sur le site du Moko Esba. Après, nous, c'est l'équipe technique qui a rassemblé aussi tout le matériel au préalable. Après, ce qui est important sur cette silhouette, c'est que donc, on passe aussi d'une silhouette qui était clairement une silhouette féminine, avec une silhouette qui devient plus asexuée et non genrée.
Oui. Okay. Ouais.
Après, ce qui est important de noter sur cet environnement, c'est qu'aussi cette silhouette, c'est la première fois, la seconde fois, puisqu'il y a aussi Nanny Losburel en 76, qui est une silhouette constituée de bougies votives qu'elle avait activées pendant une semaine dans une galerie à New York, qu'on va vers un volume aussi, et vers la question de la sculpture. C'est aussi quelque part, ça annonce aussi un travail plus tardif, qui sont les sculptures qu'elle réalisera à Rome en 83. Il y en a 11 en tout, qui sont des sculptures présentées au sol et qui sont constituées de terre amalgamées avec un liant en fait. Et qui existent encore aujourd'hui, qui sont des œuvres pérennes en fait. Donc, et c'est la première fois que la silhouette aussi prend forme dans un espace.
Mais c'est effectivement, il y a ce aspect collectif qui m'intéressait quand même de cette pièce. Et je voulais savoir, est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel chez elle? Parce que là, est-ce que c'est la seule pièce qu'on voit ici qui a vu le jour comme ça, ou il y en a d'autres qu'on connaît?
pas du tout la seule, puisqu'il y en a d'autres connues. Après, c'est un autre aspect aussi du travail d'Anna Mendita, qui a beaucoup travaillé sur les questions de transmission et de pédagogie. Elle a elle-même enseigné. Quand elle était étudiante, elle a enseigné aussi les arts plastiques en école primaire. Elle a été énormément invitée à travers les États-Unis en tant qu'artiste invitée dans des universités. Ensuite, elle a, en 79, elle enseigne aussi en tant qu'enseignante adjointe à l'université de Woodbury, où elle avait réalisé auparavant Untitled Suite Series.
Donc, elle est invitée suite à cette exposition d'enseigner dans cette institution.
Oui. Alors, c'est pas nécessairement lié suite à l'exposition, c'est que dans son parcours aussi, elle avait déjà aussi cette question de l'enseignement et de la transmission. Et après, son interaction avec le public, en fait, elle est pratiquement omniprésente dès la fin des années 70. Elle répond à énormément de projets de commandes publiques et elle intervient aussi en espace public ou sur invitation par des musées sur les espaces extérieurs de certains musées. Elle a retravaillé avec des groupes d'étudiants aussi, notamment par exemple si je prends une œuvre qu'elle a réalisée en 82 qui s'appelle Arbitra, qui était un projet en fait à l'université de Hartford, où là donc elle travaille en fait, donc là on passe sur la verticalité et elle travaille sur un grand tronc en fait sur lequel est gravée une silhouette qui est ensuite brûlée avec de la poudre à canon et qu'elle réalise aussi avec, avec l'aide d'un groupe d'étudiants. Donc cette interaction aussi avec un public plus large aussi, la question communautaire, elle est très importante dans une œuvre qui... Alors la question de l'impermanence et la permanence dans le travail d'un humanitaire, elle est cruciale aussi parce que il y a parfois eu des caractères éphémères, des caractères semi-pérennes. Et il y en a notamment un projet en fait qu'elle a réalisé en fait à Miami qui s'appelle dont il y a une photographie en fait qui témoigne de cette intervention où elle intervient en fait sur donc c'est d'ailleurs le titre de l'œuvre, c'est bah, Fétiche, où elle intervient sur un arbre qui est lui-même considéré un peu comme un arbre sacré qui se trouve dans un quartier particulier puisque c'est le quartier de Little Havana, donc avec une communauté cubaine importante. Et c'est un arbre haché majestueux et donc la communauté se l'est approprié comme lieu de culte, d'offrande et de prière à certains dieux. Et en fait, elle va intervenir en fait sur cet arbre en venant utiliser en fait sa morphologie et utiliser un saillie. Donc c'est un arbre à une double sexualité parce que c'est à la fois une silhouette féminine et masculine qui est représentée. Et les gens vont se l'approprier en fait. Et y ajouter d'autres éléments, donc notamment il y a une bouche qui est rajoutée avec des coquillages qui n'est pas de l'intervention de Anna Mendita. Et vu que ça a été gravé dans le tronc, ça perdure quand même un certain temps.
Merci beaucoup Ramona pour toutes ces explications. Je vais maintenant continuer ma visite. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine encore dans l'exposition au commencement d'Anna Mendita, cette fois accompagnée de l'artiste Barbara Luchenska. À la semaine prochaine. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadialistique.